Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour à toutes et à tous et vous êtes bien sûr dans la tête au carré. Voici tout de suite le sommaire de l'émission réalisée par Violaine Ballet. Les enfants et les écrans, ils ont envahi notre vie et les enfants qui naissent aujourd'hui grandissent donc dans un environnement peuplé d'ordinateurs, de tablettes, de jeux vidéo ou de téléphones. L'Académie des sciences a publié hier des recommandations après s'être engagée dans une réflexion avec de nombreux spécialistes en prenant en compte tous les âges de l'enfance. C'est le sujet de la tête au carré aujourd'hui avec mes invités pour parler donc de ces recommandations, Jean-François Bach et Olivier Houdet. Bonjour à
bonjour,
tous les deux
bonjour.
Et bienvenue. Jean-François Bach, vous êtes immunologiste, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et professeur émérite à l'Université Paris-Descartes. Olivier Houdet, vous êtes spécialiste du développement de l'intelligence chez l'enfant et des apprentissages, professeur de psychologie également à Paris-Descartes et chercheur au laboratoire CNRS de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfance. C'est la PSIDE, hein, c'est ça ?
Voilà.
C'est le nom de ce laboratoire.
J'en suis direct.
Avec Pierre Léna et Serge Tisseron, vous avez donc travaillé sur ces recommandations et vous allez publier le 29 janvier prochain aux éditions Le Pommier, l'enfant et les écrans. Donc c'est tout l'avis de l'Académie des sciences que nous allons commenter donc ensemble cet après-midi pour voir quels sont vos conseils autour de l'exposition des plus jeunes face aux écrans depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. On va donc se retrouver dans quelques minutes avec les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Le retour de la bibliothèque scientifique idéale dans la deuxième partie de l'émission avec aujourd'hui le choix de livre de l'égyptologue Pascal Vernus. Et puis on terminera avec l'actualité scientifique en compagnie de Caroline Tourbe de Science et Vie et Sébastien Boller de Cerveau et Psycho. Voilà donc pour le sommaire de cette émission préparée par Chantal de Montagnier, Anne-Cécile Perrin et Hugo Struna.
Vous écoutez La Tête au Carré jusqu'à 15h sur France Inter.
Les passagers et la jolie voix de Berry sur France Inter.
La tête.
La tête.
Je ne le répéterai plus, je l'ai déjà trop dit.
La tête au carré.
Carré.
c'est ouvrir des portes.
France Inter.
Les enfants peuvent écouter.
Pas s'ils sont trop jeunes.
Et tac.
L'enfant et les écrans. L'Académie des sciences a donc publié hier un avis, des recommandations sur cette question qui est au cœur de notre tête au carré aujourd'hui, et puis certainement également au centre de questions abordées dans l'enseignement ou dans votre cadre familial. En tout cas, cet avis sera publié en livre aux éditions Le Pommier le 29 janvier prochain. On en parle avec vous, Jean-François Bach de l'Académie des sciences, Olivier Houdet, professeur de psychologie, et les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages et les questions en direct sur franceinter.fr. Alors, des recommandations, donc Jean-François Bach, qui sont le fruit d'une longue concertation. C'est un processus donc de réflexion que vous avez mené avec également Pierre Lénard, l'un des cofondateurs de La Main à la Pâte, le psychanalyste Serge Tisseron. Il signe donc avec vous ses ouvrages. Mais vous avez rencontré beaucoup de spécialistes. Comment est née d'abord l'idée de ce travail autour des écrans, Jean-François Bach, au départ?
L'idée, c'était une demande des éducateurs, des parents. Parce que beaucoup d'entre eux sont inquiets de voir les enfants passer beaucoup de temps devant ces écrans, ne savent pas très bien quoi faire, sont un peu perdus. Mmh. Et nous avons à l'Académie beaucoup d'intérêt pour l'enseignement des sciences, pour l'éducation en général, donc nous avons pensé qu'il était important qu'on s'y intéresse. Et nous avons donc consulté, comme vous le disiez à l'instant, des spécialistes d'ordre très divers.
Oui, ça a duré assez longtemps d'ailleurs.
Deux ans, ouais. Parce que on a travaillé pendant deux ans. On a auditionné des scientifiques de la neurobiologie très fondamentale, des producteurs de jeux vidéo, des psychologues, des psychiatres. Bref, c'était très multidisciplinaire et scientifique. C'est important parce que c'était vraiment fondé sur les bases scientifiques actuelles. Et progressivement, on est arrivé à un consensus qui s'est traduit par ce rapport. Et d'où sont nées des recommandations dont on peut parler tout à l'heure.
Voilà, recommandations d'ailleurs qui sont loin d'être négatives. Hein. On peut déjà donner la tonalité générale de cet avis.
Oui,
ce qui a pu surprendre d'ailleurs beaucoup de mes confrères qui s'attendaient à ce que l'Académie des sciences, au contraire, tape sur les outils numériques en dénonçant des dangers tous azimuts.
Alors pas du tout, effectivement, parce que... Bon, nous intéressons beaucoup à l'informatique. Nous avons plusieurs informaticiens à l'Académie, nous sommes très heureux. Et nous savons, bien sûr, sur le plan scientifique, tout ce que l'informatique peut apporter. Peut apporter dans la science, mais également dans la vie quotidienne et dans la culture. Mmh. Alors, et bien sûr, il faut pondérer la culture informatique avec les autres formes de culture. Une des conclusions principales de ce rapport, c'est que, certes, l'utilisation exagérée des écrans, de l'informatique sous toutes ses formes, peut avoir des effets nocifs, et il faut en parler, mais elle a également des effets très positifs. Nous avons insisté sur le fait que les enfants qui utilisent beaucoup les écrans, ou régulièrement, ont une fluidité dans leur raisonnement, peut-être même une capacité améliorée à se engager à prendre des décisions rapides. Enfin, il y a toute une série de qualités qui sont promues par l'utilisation des écrans. Donc, ce n'est pas du tout seulement négatif.
Absolument.
Il y a du positif et du négatif.
Et on va en discuter avec vous pour voir selon les tranches d'âge. Hein. Il faut retenir 2, 6 et 12 ans. Hein. Il y a trois paliers importants. Olivier Houdet, évidemment, pour vous, j'imagine que c'est une question passionnante, puisque, on le disait tout à l'heure, vous êtes directeur de ce laboratoire de psychologie du développement de l'éducation, donc vous intéressez vraiment au développement de l'intelligence chez l'enfant, l'apprentissage. Avec ces nouveaux outils, c'est quasiment tout un nouveau pan là, qui émerge et qui conditionne énormément l'apprentissage chez les plus jeunes.
Alors, le cerveau de l'enfant se développe par un certain nombre d'étapes, de processus. Il est déjà extraordinairement structuré dès la naissance.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par une structuration déjà du cerveau?
Sa forme, les fonctions a priori associées à chaque région, à chaque réseau. Simplement, le cerveau doit apprendre à travailler dans son environnement cognitif, social et culturel. Et la nouveauté, c'est que, alors que le cerveau, lui, est issu d'une très longue histoire, évolution biologique de millions d'années, la nouveauté est que depuis 10 ans, de façon massive, cet environnement culturel auquel sont exposés tous les cerveaux des enfants inclut des écrans, des formes multiples. Donc,
mais ça, c'est une vraie révolution pour non seulement nos modes de vie, mais aussi pour notre vieux cerveau qui a dû faire face, là, tout d'un coup, à l'émergence de nouvelles technologies.
C'est une révolution pas biologique en tant que telle, mais on peut dire neuroculturelle. C'est-à-dire que le cerveau, avec sa structure et son histoire, va, pour chaque enfant, au cours de son développement, devoir intégrer, s'adapter à ses outils. Et ce qu'il y a important. Il faut toujours être très prudent quand on utilise le mot révolution. Mais il est apparu lors de la séance d'hier à l'Académie que ce mot était employé par beaucoup de monde au sens de la révolution de l'imprimerie que nous avons connue il y a 4 siècles lors de la Renaissance, qui avait elle-même succédé à l'émergence de l'écriture, et que ces grandes révolutions culturelles, on peut sans doute y inscrire aussi fortement cette révolution numérique par rapport à laquelle on a encore très peu de recul, mais il y a déjà que quelques données scientifiques.
C'est très récent.
Le secrétaire perpétuel, Jean-François Bach, a souhaité mettre en avant, au moins pour éveiller une conscience collective de la science, de la société. Et pour la société, c'est une conscience qui passe tant dans les familles que dans l'école et pour laquelle il faut des outils pédagogiques précis et concrets qui est l'objet du module de la main à la pâte.
Alors c'est ça Jean-François Bach. Alors le module, on va en parler hein, parce qu'il est vraiment là, à destination des enseignants. Hein. Il va sortir en même temps d'ailleurs que le livre le 29 janvier prochain aux éditions Le Pommier. Jean-François Bach, c'est vrai qu'en ce moment, on vit quasiment en direct cette révolution culturelle avec ces nouveaux outils numériques et on a la chance de pouvoir précisément l'étudier puisqu'elle est très très bien intégrée en plus dans nos modes de vie. On s'en est emparé quasiment immédiatement.
Oui, alors la question se pose d'ailleurs de savoir dans quelle mesure et comment le cerveau s'adapte. Olivier Houdet y faisait allusion. Alors, il faut bien se rendre compte que du point de vue de l'individualité biologique, bon, nous ne changeons pas. Notre constitution reste la même. L'ADN ne bouge pas. Donc, c'est neuroculturel. Il n'est pas exclu néanmoins, mais ça, c'est peut-être la science pour bientôt. On commence à l'étudier, qu'il y ait des modifications de type épigénétique qui vont modifier vraiment, tôt ou tard, le fonctionnement du cerveau à l'usage, au contact de ces écrans. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, et c'est ce que font les neurobiologistes et les vieux aidés, et Mulpacek-Coin pour en parler, c'est d'essayer d'étudier, alors de façon très intime, en quoi cette exposition aux écrans, cette plasticité adaptée à cette nouvelle forme de communication modifie le fonctionnement du cerveau. Quelles sont les zones du cerveau qui sont utilisées? En d'autres termes, est-ce que l'enfant d'aujourd'hui fonctionne en ce qui concerne son activité intellectuelle, un peu différemment de ce qui était le cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il
s'adapte. Est-ce qu'on peut le dire déjà ou pas? Est-ce qu'on a déjà des éléments, Olivier Houdet? Parce qu'il faut imaginer le cerveau comme une espèce de grande gare ferroviaire avec des circuits incroyables, des réseaux comme ça de rails. Et est-ce que précisément l'émergence de ces outils numériques a déjà modifié ces circuits ou pas?
Ce qui apparaît dans les premières découvertes scientifiques et qu'évoquait Jean-François Bach tout à l'heure, c'est que le rapport aux écrans, les jeux vidéo par exemple, mais aussi surfer sur Internet, utiliser rapidement des moteurs de recherche, augmente positivement l'attention visuelle qui inclut l'identification de cibles, la capacité à réaliser plusieurs tâches de façon simultanée, ce que l'on appelle le multitâche, la prise de décision rapide. Donc ça, c'est l'aspect positif qui est une forme de pensée qui a bien sûr toujours existé potentiellement dans les générations antérieures, mais qui là est à grande échelle renforcée par l'usage des écrans. En moyenne, on pense aujourd'hui que enfants comme adultes, on est exposé à des écrans de tout type de 2 à 5 heures par jour, ce qui est évidemment énorme. Alors cette pensée, cette exposition, disons, intense à l'exercice d'une pensée fluide, rapide, prise de décision immédiate, peut minorer, diminuer cette autre forme de pensée dont notre cerveau est capable au niveau de son adaptation fonctionnelle, qui est la pensée plus littéraire, issue de l'imprimerie à grande échelle, lente, profonde, avec une capacité de synthèse. Et l'enjeu est là, c'est-à-dire comment apprendre aux enfants, à chaque âge, avec des pédagogies adaptées, à combiner ces deux formes d'intelligence numérique, rapide, fluide et plus littéraire, au sens aussi scientifique, puisque poser des hypothèses, faire des déductions, c'est une forme plus lente et profonde, à combiner les deux. Et c'est là qu'il faut mener aujourd'hui des recherches nouvelles sur ces sujets. Mais disons que les deux formes de pensée sont déjà identifiées.
Jean-François Bach, et puis ensuite les questions des auditeurs.
Il y a un autre élément, une autre dimension qui mériterait d'être citée aussi, c'est l'insertion sociale. C'est-à-dire qu'avec Facebook, bien sûr, mais pas seulement Facebook, Twitter, tous les autres modes d'interaction, tous les réseaux en général. Parce que c'est nouveau, et on voit tous, surtout l'adolescent, mais déjà plus tôt aussi, c'est une ouverture vers la relation sociale qui a changé. Alors ça améliorait, ça a des effets très positifs à certains niveaux. Ça permet de donner, d'établir des contacts qui n'auraient pas existé avant. Ça pose des problèmes aussi parce que certains enfants perdent un peu la notion de la relation sociale, disons, telle qu'on la connaissait, et perdent la notion d'amis. Ils ne savent plus très bien ce que c'est qu'un ami. Ils ont des listes d'amis. Ils sont très fiers d'avoir 300, 400 amis. On n'a pas 400 amis. Ce n'est pas possible. Donc il y a des problèmes intéressants et nouveaux. Ça, c'est une chose. L'autre chose dont il faudra qu'on reparle, c'est les effets délétères. Il ne faut pas voir que les effets positifs. Absolument. Il y a quand même des effets délétères.
On va l'évoquer. Alors, Daisy nous dit ceci dans son message sur franceinter.fr. En faisant l'inventaire dans un grand magasin, j'étais scandalisée, dit-elle, de voir qu'il vendait un jouet qui s'appelait mon premier portable à destination des bébés entre 0 et 10 mois. Je trouve que c'est quand même un peu tôt pour proposer ce genre de choses à un enfant. Les écrans arrivent bien assez vite. Quand l'enfant grandit, il y a tant d'autres beaux objets à proposer. Qu'en pensez-vous, Olivier Houdet ?
Si votre auditrice était scandalisée, le scandale serait l'usage éducatif que l'on pourrait en faire, ce n'est pas l'objet en lui-même. Donc, ce qui est, qu'on indique dans la vie, c'est qu'il faut être nuancé et prudent par rapport au type d'écran. Il faut ne pas exclure qu'une tablette tactile interactive, c'est-à-dire à la fois le toucher, la vision, voire pointer sur une tablette déclenche un son, puisse, dans un cadre familial, avec un enfant plus grand, le parent ou un grand-parent, participer à un éveil cognitif précoce. Il faut savoir que
ça, c'est à peu près d'ailleurs le seul aspect positif de cette tranche d'âge, entre 0 et 2 ans, que vous avez présenté cet avis. L'utilisation des tablettes.
Pour une raison très simple, c'est que les premières régions qui arrivent à maturation dans le cerveau au cours des premiers mois de la vie sont les régions sensorimotrices. Or, l'interaction avec une tablette, elle est motrice et sensorielle. Le bébé peut aussi s'amuser à voir quels sont les effets des mouvements de son doigt sur la tablette. Donc, si c'est encadré, si c'est dans le cadre d'un but éducatif, c'est un outil le plus adapté au bébé. Oui. En revanche, des écrans plus passifs ou des jeux compulsifs sur des consoles de jeux vidéo peuvent être évidemment tout à fait négatives et ne peuvent en aucun cas se substituer à un temps réel entre humains d'éducation que les parents devraient consacrer aux enfants.
Alors c'est ça, Jean-François Bach, hein, vraiment sur cette tranche d'âge, entre 0 et 2 ans, mis à part la tablette, alors là pour le coup, vous êtes très réservé quant à l'utilisation des écrans.
Oui, pour dire les choses très simplement, il arrive dans certaines familles que personne ne se sente accusé, mais il arrive que pour avoir un moment de tranquillité, les parents mettent le jeune enfant devant la télévision et puis va qu'à leurs occupations. Alors ça, nous insistons sur le fait que, bon, à petite dose, ça va, mais en trop grande quantité, c'est nuisible. Il ne faut pas, pour le développement de l'enfant, laisser un très jeune enfant devant une télévision pendant un temps prolongé.
Alors, des recommandations donc, qui démarrent à la naissance jusqu'à l'adolescence. Et on va voir que déjà, ces écrans sont une réalité dans le fonctionnement même de l'école. On va écouter un extrait d'un reportage d'Hélène Chevalier qu'elle avait réalisé l'année dernière sur précisément l'utilisation du numérique au collège.
Début du cours d'anglais et oh surprise, ce ne sont pas des cahiers qui sortent des cartables, mais des IPC. Des mini-ordinateurs que les élèves utilisent un peu dans chaque cours. Ici, par exemple, Assa, micro-casque vissé sur la tête, s'exerce.
My name is Assa. I'm intelligent.
En fait, je suis en train d'enregistrer des paroles sur Audacity pour me permettre d'évoluer mon vocabulaire en anglais et mon accent aussi.
Ensuite, tu te réécoutes.
Ouais, ensuite, je me réécoute.
Ce document, donc, date du XVIe siècle.
Changement de cours, on passe en histoire géo. Annick Abel a, elle, trouvé un bon moyen d'attirer l'attention de ses élèves de 5e. Elle projette des images sur son tableau blanc interactif.
Alors, je vais cliquer dessus et je vais la retourner de façon à ce que vous voyez mieux où on est. Vous voyez pas que la France, elle est là-haut ?
Captivés par l'écran, les élèves semblent plus attentifs, non ?
Ça dure toujours aussi longtemps, mais c'est plus marrant.
C'est pratique, sur quand il y a des documents à nous montrer, c'est intéressant. Par contre, quand ça marche pas, l'année dernière, quand ça marchait pas, la prof, elle s'énervait.
C'est dur, ça demande des efforts, ça fait des bugs, mais c'est indispensable. Si les professeurs ne se mettent pas à cet outil-là, je pense que petit à petit, l'enseignant aura de plus en plus de difficultés à capter l'attention des élèves. Et ça, c'est un moyen de le faire. Je pense que c'est vraiment l'avenir.
Voilà, capter l'attention des élèves. Hein. C'est un professeur donc, qui parle dans ce reportage d'Hélène Chevalier. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Bach et Olivier Houdet? Est-ce qu'il y a vraiment une rupture de génération, là où finalement les profs s'y sont mis tout aussi bien que ces enfants qui sont nés, eux, vraiment, dans ces nouvelles technologies?
Alors, ça, c'est un problème. Ça reste un problème. Le ministère de l'Éducation nationale et les professeurs se rendent compte qu'il y a une urgence à ce niveau-là. Mmh. Mais nous pensons que les choses ne vont pas assez vite. Et nous souhaitons très vivement, et nous sommes en train de préparer un autre avis sur ce sujet, sur l'enseignement du numérique, avec notre confrère Gérard Berry, il faut accélérer l'introduction de l'informatique, du numérique à l'école, au collège. Mmh. C'est une nécessité. Alors les professeurs sont d'accord, c'est pas simple, parce qu'ils n'y ont pas été formés. Et puis les enfants sont tellement bons qu'il faut qu'ils s'accrochent au niveau des enfants en informatique, qui est très élevé. Donc ça pose un problème.
Mais vous dites quand même d'ailleurs dans la vie que les adultes ne sont pas forcément moins bons que les enfants qui, eux, manipulent ça depuis leur temps d'enfance, hein, Olivier Houdet. Hein.
Ce qui est dit, c'est qu'en tant que capacité d'exploration, on a toujours exploré dans des bibliothèques complexes ou dans d'autres bases de données. Mais néanmoins, pour la question que vous posiez de la capture de l'attention, on peut quand même imaginer qu'une culture excessive du zapping entraîne à l'école un désintérêt pour une leçon qui serait un peu plus linéaire, profonde. Et donc, à l'évidence, il faut laisser la possibilité de jongler entre les deux. Sinon, cela pourrait créer à l'école un désintérêt ou lors d'une conférence ou d'une émission qui elle-même est, comme celle qu'on est en train de faire, assez linéaire.
Donc il faut une capacité d'attention, hein, évidemment, que le zapping évidemment peut enrayer. On va se retrouver dans un instant, il y a beaucoup de messages des auditeurs qui vous sont adressés sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr pour nous retrouver. Et on poursuit cette discussion autour de ce sujet, donc sur les écrans et les enfants, après Isaac Delusion.
I close my eyes.
qui tu parles?
En fait, je chatte avec mon ami Charlie de Californie. Il est au secondaire premier cycle et il joue au volley pour son école.
Oh, au secondaire. Visiblement, un jeune homme brillant. MDR, mort de rire, c'est ça?
10 sur 10.
Pour Wams?
C'est du chinois, ça veut dire parents observent par-dessus mon épaule.
Et ça, c'est quoi ça?
Ça, c'est péter de rire, moi aussi. Non, une seconde. Dis, t'es sûr que tu devrais pas aller discuter hypothèque avec maman?
Voilà, extrait d'un film qui s'appelle Trust, qui est sorti l'année dernière, au mois de janvier 2012. L'histoire d'une jeune adolescente qui est dans cette histoire traquée par un prédateur sexuel via Internet. En tout cas, là, on avait envie de diffuser cet extrait pour justement parler un petit peu des parents, puisqu'on voit là le père de cette jeune femme qui est derrière elle, au-dessus de son épaule. Vous insistez beaucoup sur l'encadrement, Jean-François Bach, justement, dans cet avis, dans ses recommandations autour de ce lien entre les écrans et les enfants. Jusqu'à quel âge, d'ailleurs, est-ce que vous le préconisez ?
Écoutez, à tous les âges, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes selon les âges. Notre message est que les parents doivent encadrer les enfants, doivent leur parler de ce qu'ils font avec leurs ordinateurs, avec leurs téléphones, leurs tablettes, de façon qu'ils ne soient pas répressifs, de façon primaire. Là, les parents posent toujours la question de savoir s'ils doivent sanctionner, prendre des mesures, disons, drastiques. Dans certains cas, c'est nécessaire. Il faut limiter le nombre d'heures d'utilisation et à un moment ou à un autre, il faut interdire. Bon. Mais si on peut éviter de le faire en dialoguant, en essayant de créer un climat de confiance, c'est possible. Mmh. Encore faut-il que les parents sachent de quoi ils retournent. Certains parents ne sont pas très au courant des différents outils informatiques et donc comptabilisent le nombre d'heures, regardent des résultats scolaires. Quand ils le peuvent souvent, pas toujours, comptabilisent les heures de sommeil manquantes. Mmh. Mais s'ils pouvaient entrer dans un dialogue avec les enfants, leur apprendre à s'autoréguler eux-mêmes autant que faire se peut, leur apprendre tous les inconvénients, les risques que les enfants souvent ne perçoivent pas, c'est l'évolution que nous préconisons en étant conscients des limites de la chose.
Alors c'est ça, oui, parce qu'Olivier Audier, j'allais vous dire, dans la pratique, on voit bien que c'est impossible d'être toujours l'œil au-dessus de l'épaule de son enfant. Enfin, je veux dire, chacun a ses outils facilement transportables et c'est très compliqué de pouvoir avoir une attention permanente là-dessus.
En effet, d'où cette idée forte dans le rapport d'autorégulation, apprendre à l'enfant lui-même à se réguler, d'abord avec ses parents ou à l'école, mais ensuite aussi le propre de l'autorégulation lorsqu'il sera seul face à l'écran. Alors dans la tranche d'âge de 6-12 ans, qui est l'école maternelle, on peut déjà faire des petits exercices d'autorégulation par rapport aux écrans, et il faut utiliser le jeu. On sait que c'est l'âge, depuis fort longtemps, on sait que c'est l'âge du jeu de faire semblant. La question de votre auditrice tout à l'heure sur les téléphones portables dans les magasins...
Oui. Pour les bébés, hein.
Oui, peut-être était-ce un faux à vérifier parce qu'il y a beaucoup de faux téléphones portables.
Ça, c'est un jouet. Elle parlait d'un jouet.
Voilà, jouet. Mais ça, c'est très utile et c'est très amusant parce que les bébés faisaient avant ça avec les jeunes enfants avec des bananes. Ils prenaient une banane et ils faisaient semblant de téléphoner. C'est une conduite extrêmement observée chez tous les enfants du monde. Ouais. Ils le font aujourd'hui avec de faux téléphones portables. Mm-hmm. Donc, c'est une situation ludique qui, si elle est utilisée éducativement, peut commencer à jouer avec l'enfant, à faire semblant, à commencer à alterner entre le virtuel et le réel, dans un cadre où là, il n'y a aucune violence, il n'y a aucun danger, mais c'est un processus de distinction qui peut lui servir ensuite pour l'autorégulation. Et autre exemple, c'est que dès cette tranche d'âge, il existe des logiciels éducatifs élaborés par des laboratoires de sciences cognitives à partir d'une connaissance plus précise des règles de fonctionnement du cerveau qui, par exemple, prépare l'apprentissage de la lecture. Il y a un logiciel qui s'appelle GraphoGame qui apprend au rythme de l'enfant, puisque l'ordinateur permet de s'adapter au rythme de l'enfant, à faire des correspondances entre graphèmes, la forme des lettres, et phonèmes, les sons.
Donc aussi... ça, c'est directement lié à la connaissance de notre cerveau.
Absolument, parce qu'on sait que dans le cerveau, une lecture globale, uniquement globale, n'est pas extrêmement efficace comme méthode, même s'il faut aussi un aspect global, c'est une correspondance graphème-phonème qui correspond à une région particulière du cerveau et que ces logiciels éducatifs permettent d'entraîner. Donc du temps d'écran, pourquoi pas, s'il est éducatif, s'il est encadré et s'il est éclairé par les connaissances scientifiques actuelles du fonctionnement du cerveau à chaque âge.
Olivia nous dit dans son message, est-ce qu'il ne faut pas distinguer les nouveaux écrans des anciens écrans? Il me semble que la télévision qui appartient à ces derniers est placée davantage l'enfant dans une situation de passivité alors que les nouveaux écrans impliquent et mobilisent davantage les enfants, Jean-François Bach.
totalement raison, votre auditrice. C'est ce que nous, l'idée que nous défendons de façon très ardente. Effectivement, la télévision est passive. Il ne faut pas non plus, disons, jeter tout dans la télévision. Il y a des très bonnes émissions, de très bons films. Mais c'est vrai que la télévision expose à des inconvénients qui ne sont pas rencontrés par le numérique moderne, même si celui-ci a ses propres inconvénients. Mais la télévision introduit une passivité qui est connue depuis longtemps et qui ne fait que se confirmer à l'usage quand on la compare aux autres moyens actuels.
Et d'ailleurs, on voit que les enfants se détournent de la télévision classique et préfèrent les outils. C'est-à-dire qu'ils regardent de moins en moins. La télévision, maintenant, est regardée majoritairement par des adultes ou des personnes âgées, mais les plus jeunes, eux, sont sur d'autres types d'écrans. Donc on voit bien qu'il y a une relation qui est beaucoup plus active sur ces outils.
On ne peut pas imaginer quelle sera la télévision de l'avenir. On va peut-être nous bricoler des objets culturels nouveaux qui mélangeront, et c'est quand même ce qui semble se dessiner, de la télévision, du numérique, des choses plus interactives. Les supports changeront par les enfants d'aujourd'hui qui créeront ces objets demain correspondant davantage à leur rapport au réel.
Olivier Houdet et Jean-François Bach, ce message de Camille. J'ai 26 ans, je n'ai jamais eu de télé, toujours pas de smartphone, juste un ordinateur pour regarder mes mails de temps en temps. Est-ce grave, docteur ?
Alors, je connais plusieurs personnes ayant cette caractéristique. Bon, toutes celles que je connais ne s'en sont pas plus mal portées. Elles ont maintenant 20 ans. J'avais un oncle qui était professeur de lettres qui avait une fausse télévision en carton. Il avait 6 filles et pour bien montrer qu'il ne voulait pas avoir de télévision. Et je peux vous dire que mes cousines s'en sont très bien sorties. Alors, c'est un choix que font nombre de personnes. De ne pas avoir de télévision, pas avoir de téléphone portable, ça devient difficile parce que le téléphone portable, ne pas en avoir, c'est peut-être se priver de quelque chose, mais c'est également priver d'autres personnes, des membres de sa famille, ses amis, de quelque chose. Donc, c'est un choix, tous les choix. Il n'y a pas d'inconvénient, évidemment, autre que pratique.
Olivier Houdet, sur l'apprentissage.
J'invite cette auditrice à venir nous voir au laboratoire de psychologie de la Sorbonne parce que c'est néanmoins un cas, on va dire, culturel d'observation qui pourrait être intéressant.
Oui, c'est quasiment un cas scientifique.
C'est devenu très rare. Mais ça existe.
Un objet de recherche.
Un isolement numérique et son témoignage serait très utile.
Ouais. Mais les gens dans le cadre justement de cette auditrice sont assez nombreux finalement. On s'en aperçoit, on a fait une émission sur les 100 télés. Il y en a beaucoup qui nous avaient envoyé des témoignages sur cette question. Marjorie nous demande s'il existe une preuve scientifique d'un lien entre les actes violents et l'usage des jeux vidéo violents. Elle a entendu des pédiatres dire qu'au-delà de 30 minutes, l'enfant devenait agressif. Est-ce que c'est exact ?
Alors, nous avions dans notre comité, nous avions un spécialiste du sujet, qui est Serge Tisseron, que vous connaissez bien. Alors, ce qu'il nous a dit, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, les jeux violents, c'était vrai d'ailleurs des films violents, la télévision violente, ont des effets assez divers, assez contrastés. Alors, dans certains cas, la violence induit la violence, c'est connu, avec la perte de la notion du réel, du virtuel, dans ce cas-là, dans ce contexte-là. Dans d'autres cas, les films violents, les jeux violents, mettent l'enfant dans la situation de l'agressé, de la victime, ou même dans la situation du redresseur de tort, du policier, en quelque sorte. Et donc, à ce moment-là, avec des réactions qui seront différentes, qui ne seront pas forcément négatives. Donc, il faut bien dissocier les cas, les situations sont différentes. Et il se rajoute encore une autre variété de problèmes ou de situations. C'est très différent si un enfant, et c'est bien été étudié scientifiquement, si un enfant participe à ces jeux tout seul ou en groupe. Il se trouve qu'en groupe, le fait de pratiquer ces types d'utiliser ces films ou ces jeux vidéo violents en groupe incite plus à engendrer la violence que si c'est tout seul.
Alors Olivier Houdet, justement, sur les effets délétères des outils, sur les différentes pathologies, de quoi parlez-vous exactement dans cet avis ? Qu'est-ce que vous pointez du doigt ?
Il est très équilibré avec les aspects positifs, mais la face négative serait une pratique excessive des écrans, qui n'est pas une addiction démontrée, ce qui est bien dit dans le rapport, mais une pratique excessive, manque de sommeil, risque accru de troubles de la vision, des études assez importantes.
Mais ça, on le chiffre par rapport à l'utilisation
sur l'émergence de myopie plus précoce chez les adolescents, manque d'activité physique et sociale réelle et ou incitation dans certains cas, et avec l'analyse fine dont on vient de discuter, dans certains cas, incitation à la violence.
Jean-François Bach, pour compléter cet aspect.
Je dirais qu'un des problèmes principaux, c'est le fait que les enfants sont distraits d'autres activités. C'est ça le fond du problème. quand on voit passer, quand un enfant passe 5 heures, 6 heures, ou certains jours et encore plus pendant les week-ends, être devant son ordinateur, son téléphone, envoyer, recevoir des SMS, il y a un moment où trop, c'est trop. Et il n'a plus le temps de faire son travail, plus le temps d'avoir accès à d'autres formes de culture. Nous avons beaucoup insisté sur le fait que le livre, la lecture est totalement complémentaire du numérique. Alors peut-être d'ailleurs la lecture deviendra un peu plus numérique dans le futur, mais ça c'est un autre sujet, ça c'est pas le problème de fond. Donc il faut équilibrer l'activité quotidienne, les loisirs, la culture. Et c'est vrai que chez certains, un déséquilibre se constitue de façon inquiétante. Et c'est là qu'il faut essayer de prendre les mesures nécessaires. Alors les problèmes pathologiques, à proprement parler, paradoxalement, sont assez rares.
C'est-à-dire qu'on parle souvent d'addiction aux écrans. En réalité, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques
qui le prouvent. Si, on commence à le faire, absolument. Alors, tout tourne autour de ce qu'on appelle l'addiction. Il faut distinguer ce qu'on appelle l'addiction et la dépendance. C'est sûr qu'un jeune adolescent actuellement, si on lui retire son téléphone portable, sa tablette, son ordinateur, etc., il va être malheureux parce qu'il est dépendant. Mais ce n'est pas une addiction. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de syndrome de sevrage ni de rechute obligatoire comme avec les drogues ou avec le tabac ou l'alcool. Donc il n'y a pas d'addiction à proprement parler, mais une certaine dépendance. La pathologie, je disais, relative. Il y a quelques situations pathologiques, notamment des états dépressifs. Alors on a parlé de surpoids aussi, mais quelques problèmes de type psychiatrique, ça reste rare et on ne sait jamais vraiment si c'est l'utilisation des écrans qui est à l'origine de ces troubles psychiatriques ou si ce n'est pas chez des enfants prédisposés.
Donc il faut rester très prudent sur ce lien, effectivement, entre ces pathologies et les écrans. Christophe nous dit ceci, l'écran prend de plus en plus de place dans le cadre éducatif. Si la fluidité d'apprentissage semble évoluer, qu'en est-il de la mémoire des enfants, Olivier Houdet?
Alors là, il y a des études assez intéressantes sur l'impact notamment des explorations, de la navigation sur Internet sur la mémoire. Lorsqu'on demande et précisément votre auditrice tout à l'heure qui parlait d'un cas un peu d'isolement numérique, c'est intéressant. On peut distinguer, sans que ce soit un contraste aussi grand, des groupes qui surfent plus ou moins sur Internet. Et donc, en comparant leurs performances de mémoire après, on constate que les plus gros consommateurs de numérique ont finalement cristallisé une mémoire à long terme qui repose davantage sur les liens, les liens sur un moteur de recherche, plus que sur les contenus eux-mêmes, leur analyse en profondeur et une synthèse, disons, cognitive, personnelle de ces contenus. Et dès lors, ça c'est une observation réelle qui a été publiée dans une grande revue scientifique, dès lors, il faut que l'enfant prenne conscience, d'où l'idée que dès entre 2 et 6 ans, on souhaite faire prendre conscience à l'enfant du fonctionnement de son cerveau, du fonctionnement des écrans, des deux mémoires, et comment, à travers des modules pédagogiques, on peut lui apprendre à gérer au mieux ces deux interlocuteurs, son cerveau et l'écran.
Allez, je termine par ces deux messages. Macha nous dit ceci. Nous sommes très étonnés de constater que notre fils de 11 mois est très attiré par l'écran d'ordinateur. Il reste d'une part bloqué face à cette lumière vive et d'autre part réussit à interagir avec ses grands-parents sur Skype. Si petit, il a 11 mois. Et puis Emmanuelle est enseignante. Je suis inquiète, dit-elle, de la disparition annoncée de l'effort d'écoute que laisse présager l'emploi généralisé des écrans, gadgets technologiques en classe. Oui à la modernité, oui à des cours riches en échanges, mais non à l'animation à tout craint. Apprendre nécessite un effort. Ne l'oublions pas, dit-elle. Voilà, il y a beaucoup de commentaires sur le site, vous pouvez y aller pour continuer la conversation. Et puis donc va sortir le 29 janvier prochain « L'enfant et les écrans » aux éditions Le Pommier. Donc c'est vraiment la synthèse, les recommandations de cette étude de l'Académie des sciences. Et puis Olivier Houdet, « Les enfants, le cerveau et l'enfant, les écrans », là aussi au Pommier, c'est à destination plutôt de là des enseignants.
Il y a 18 séances pour les cycles 2 et 3 du primaire, et c'est à destination des enseignants, mais les parents pourront accéder via le site de la main à la pâte à un forum d'interaction.
Et il est en lien, bien sûr, sur La Tête au Carré. Merci Jean-François Bach et Olivier Houdet d'être venus dans La Tête au Carré.
La Tête. La Tête au Carré sur France Inter.
C'est l'heure de retrouver la bibliothèque scientifique idéale avec aujourd'hui le choix de l'égyptologue Pascal Vernus.
Éric Hornung, L'esprit du temps des pharaons. Il a été publié en France en 1996. C'est un recueil dans lequel Éric Hornung a réuni plusieurs articles consacrés à l'Égypte ancienne, mais à une vue approfondie de l'Égypte ancienne. Vous voyez, il y a deux moyens de voir l'Égypte ancienne. tout à fait légitimes l'un et l'autre, je m'empresse de le dire. D'abord l'admiration, hein. Quand on voit l'or, les temples, on est béat d'admiration. C'est beau, c'est magnifique, c'est grandiose. Et puis, à un second temps, on peut se dire, oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y avait en jeu derrière ? Et justement, c'est le propos d'Erik Hornung, c'est d'aller au-delà de l'admiration légitime et immédiate et de chercher l'explication. Dans ce livre, il a posé les concepts fondamentaux qui permettent de mieux comprendre l'Égypte ancienne et de comprendre justement qu'est-ce qu'il y avait derrière le masque d'or de Toutankhamon. Il n'y a pas seulement une momie, il y a aussi toute une pensée, une véritable vision du monde. Et cette vision du monde, les principales articulations, vous les trouverez résumées de manière très simple, très compréhensible dans ce livre de ce grand savant qui était, pour l'anecdote, je le signale, il travaillait en Suisse, il était professeur à Bâle, mais il était d'origine lettonne.
Regardez là-haut. Vous voyez la beauté de ces bas-reliefs. Ce qui est merveilleux dans l'art égyptien, c'est son immense dignité, son extrême simplicité. Seuls les anciens Égyptiens pouvaient produire cela. Le sens du sacré imprégnait leur vie quotidienne et s'inscrivait dans une perspective d'éternité, si l'on peut dire.
J'ai choisi ce livre justement pour essayer de donner aux gens le goût de chercher au-delà. Vous voyez, la science, ça se passe en deux temps. Il y a toujours un côté émotif, nous l'avons tous en voyant l'Égypte ancienne, mais il faut que ce côté émotif laisse le pas à la recherche, la compréhension.
Suivez le guide.
Parce que l'homme, il n'est pas seulement fait d'émotion, il est fait aussi d'intelligence, de curiosité. Et ce livre répond aux questions de la curiosité intellectuelle. Je crois que c'est très important pour l'Égypte ancienne. Il faut être admiratif.
Très intéressant. Ces pyramides.
Mais il faut savoir aller au-delà de l'admiration pour chercher à comprendre ce qui est, après tout, la tendance humaine universelle. L'homme, il est homme parce que, justement, il cherche à comprendre, il est curieux. Et ce livre répond à la curiosité.
Numéro bis. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde ?
Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je ne connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non.
La dernière limite ne peut être que l'illimité. Les ténèbres. L'océan primordial et les profondeurs abyssales de la Terre ne sont que des circonlocutions pour désigner l'informel, le non structuré, l'illimité, d'où est sorti l'univers. Ainsi, l'univers créé se heurte partout, dans l'espace comme dans le temps, à l'incréé, au non-être. Cet encerclement du monde par le non-monde est illustré par l'image de l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue et se replie donc sur lui-même. Alors ça s'adresse à un public de, non pas de spécialistes, de gens qui aiment l'Égypte ancienne, ils n'ont pas besoin d'être des grands spécialistes, mais à des gens qui ont quand même une certaine formation, de manière qu'ils puissent comprendre ces concepts qui ne sont pas difficiles à saisir, mais qui demandent quand même un certain niveau. Donc ce n'est pas, je ne conseillerais pas le livre à quelqu'un qui ne connaît rien sur l'Égypte ancienne, je conseillerais le livre à quelqu'un qui s'est déjà donné une bonne connaissance, hein, qui a été en Égypte ou simplement qui a lu des livres, et qui dans un deuxième temps essaye d'aller au-delà de la simple émotion.
Voilà, chronique de Lucie Sarfati dans la bibliothèque scientifique idéale aujourd'hui. Pascal Vernus qui vous conseille ce livre, L'esprit du temps des pharaons. Je vous rappelle que vous trouvez toute la liste des ouvrages conseillés tout au long de la saison sur le site de La Tête au Carré à la rubrique Bibliothèque scientifique idéale.
C'est quoi ton nom ?
Cold Princess.
T'as quel âge ?
Qu'est-ce que ça peut te faire ?
Tu veux un cachou ?
Bon, merci. Je ne suis pas très propre. J'ai fumé du pot. C'est marrant, mais ça rend pas causant. C'est comme l'op, tu sais.
Non, je sais pas.
J'ai tâté du kiff aussi. Bof. Il y a toujours ces hippies. Je dors pas. Ils sont là à traîner. Ils sentent vraiment mauvais. Moi, je vis dans un monde vert et mauve toute la journée. Quand j'ouvre les yeux, c'est...
Tu veux un cachou ?
Non merci, je ne suis pas très drogue. mon chien Otis. Je le sors le matin, on vole tous les deux jusqu'à la plage, c'est super beau. Je reste assise sur le sable une heure ou deux avec tous mes copains, ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps, on branche un tourne-disque, et là sur la plage, on danse. On danse le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière, jusqu'au petit matin et les couleurs explosent.
Tu veux un cachou?
Non merci, je ne suis pas très drôle. Là, sur la plage, quand le vinyle crépite sur la platine, ça fait... Si j'ai choisi mon chaton bleu, je twist en regardant le ciel. La lune est mauve et les reflets sur la mer sont merveilleux, tu sais. Et puis la flotte explose en mille petits morceaux d'étoiles. Je sens qu'il est temps et je rentre me coucher.
Je devrais prendre un cachot, tu sais.
Non merci, je ne suis pas très drôle.
Je ne suis pas très drogue, ça s'appelle The Liminanas.
La tête au carré, la tête,
l'actualité
des sciences sur France Inter.
Caroline Tourbe de Science et Vie, Sébastien Boller pour le magazine Cerveau et Psycho sont avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Par qui on commence ?
Par moi ?
Par Caroline, ouais. Allez, qui a très envie de nous parler d'une étude sur un vaccin pour la bronchiolite.
Oui, un vaccin contre la bronchiolite, croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire de le mettre au point. Pourquoi ? Ben, il y a deux raisons. Premièrement, à cause de la nature du virus qui est responsable de l'infection, c'est le VRS, virus respiratoire syncytial, et c'est lui qui s'attaque aux poumons des tout-petits.
Oui.
C'est lui qui est responsable des hospitalisations pour des détresses respiratoires.
Avec cette fameuse kinée respiratoire si impressionnante.
Exactement. Et en fait, ce virus, il est très peu immunogène, c'est-à-dire qu'il ne provoque pas beaucoup de réactions protectrices lorsqu'on le met en contact avec le système immunitaire de quelqu'un. Or, ça c'est la base du vaccin, on vous met en contact avec un virus ou une bactérie ou des bouts de ce virus et de cette bactérie une fois, puis la fois suivante, vous avez appris à vous défendre contre lui. Dans le cas du VRS, ça ne marche pas bien ce système-là. Il faudrait faire des vaccins très puissants avec des adjuvants pour aider à la réaction immunitaire. Et les adjuvants, c'est par exemple les molécules à base d'aluminium. On sait que c'est compliqué de les
Dieu,
utiliser.
Mon Dieu, ne dites pas ça.
Surtout, c'est très compliqué d'imaginer de les utiliser sur des tout petit, puisque là, ça concernerait des 2-3 mois, peut-être jusqu'à 6 mois. Alors donc, c'est pas possible d'utiliser même des vaccins classiques, c'est compliqué. Donc, il faut trouver une autre solution. C'est là que des chercheurs de l'INRA se sont associés à une société de biotechnologie pour mettre au point des patchs vaccinaux. L'idée, c'est de préparer une préparation vaccinale avec des morceaux de molécules du virus, de les inclure dans ce patch que l'on pose 48 heures sur la peau. Et là, localement, des cellules immunitaires mettent en place une réaction qui pourrait être à la fois efficace et douce. Alors, ça va nécessiter de très longs essais, puisqu'il faudra déjà valider sur les animaux. C'est pas encore
oui, c'est l'INRA qui est à l'origine.
C'est l'INRA, exactement.
C'est pas l'INSERM.
Non,
ouais.
C'est l'INRA. C'est bien l'INRA. C'est sur les veaux qui,
recherche agronomique.
Qui sont touchés par la bronchiolite également. Voilà, donc il faudra vérifier efficacité et sécurité. Mm-hmm. Donc, c'est une piste intéressante, mais c'est pas avant des années.
Sébastien, vous nous parlez d'une étude sur les difficultés à prendre des décisions de façon libre et autonome. Ça nous intéresse, ça.
Oui, et plus particulièrement d'un biais de jugement, d'un biais qu'on appelle le biais de conformité. Ça désigne la tendance que nous avons bien souvent à délaisser notre analyse personnelle, individuelle, au profit de l'avis de la majorité et de s'y rallier, quelle que soit la pertinence de cet avis. Déjà en 1950, il y a un psychologue social qui s'appelait Solomon Asch qui avait montré ce biais de conformité dans des tâches visuelles très simples. Par exemple, on vous donne à comparer la taille de deux objets. Il avait constaté que les gens voient très bien quel est l'objet le plus grand, mais s'il y a une majorité de personnes qui leur donnent une réponse complètement absurde, on voit qu'ils se rangent à la réponse complètement absurde. Et là, ce qui s'est passé à l'université de Princeton, c'est qu'ils ont voulu savoir ce qui se passe dans notre tête quand on est entraîné dans ce genre de processus. Et par imagerie cérébrale, on a vu qu'il y a une structure du cerveau qui s'appelle l'insula, qui est un repli de l'écorce cérébrale au niveau de la tempe, qui s'active à ce moment-là quand on commence à douter de soi pour rejoindre la vie du groupe. Et cette insula est vraiment un prédicteur de ce changement, c'est-à-dire qu'elle déclenche ce changement-là. C'est vraiment une pression du groupe par l'intermédiaire de l'insula sur notre décision. Alors cette insula, c'est intéressant parce que c'est une zone du cerveau qui capte l'état émotionnel de notre corps. Et on sait aussi qu'elle s'active quand on a peur d'être rejeté du groupe. Donc finalement, le groupe fait pression sur notre peur finalement d'être marginalisé. C'est pour ça qu'on se replie vers le groupe. Alors ça a des conséquences importantes au niveau des prises de décisions collectives dans les processus électoraux. En 2012, dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, il y a une étude qui a été menée par un institut piloté par des psychologues sociaux sur 1000 personnes. On leur demandait pour qui vous allez voter entre les deux candidats au second tour. Et on voyait que quand on leur montrait un sondage où la majorité disait le contraire de ce qu'ils avaient décidé, ils changeaient d'avis dans 25% des cas. Donc, influence énorme sur notre vie démocratique.
C'est une étude française, américaine ?
Non, américaine. Princeton.
Oui. Les jeux vidéo uniquement pilotés par la pensée. Hier, plusieurs laboratoires de recherche français ont présenté un jeu du futur étonnant, puisque c'est notre cerveau qui pourra, dans un avenir proche, commander entièrement le jeu. Baptisé Brain Invaders, il a été testé, ce jeu, par des journalistes qui étaient présents hier et qui ont dû d'abord se poser sur la tête un casque bardé d'électrodes. Alors le jeu donc transforme les ondes du cerveau en commandes informatiques pour le joueur, qui doit faire preuve d'une concentration maximale sans bouger ni la tête ni le corps. Pas facile, selon Émeric Renoux du Parisien Aujourd'hui en France, qui raconte justement qu'il a joué hier les cobayes. Il faut retenir quand même les prouesses scientifiques qui se cachent derrière ce dispositif, autour donc de cette présentation ludique, mais surtout les avancées spectaculaires autour de la connaissance du cerveau. Alors pour ceux qui souhaitent déjà tester ces avancées technologiques, le jeu est disponible gratuitement sur le site de l'INRIA, moyennant quand même l'achat d'un casque électro-encéphalographique de 250€ sur Internet. Ce jeu par la pensée et offre évidemment aussi des applications pour le futur, parce que là on est dans le domaine ludique du jeu et puis on est dans le salon effectivement, mais bientôt c'est les personnes handicapées qui pourront en bénéficier pour commander à distance un fauteuil roulant ou un bras articulé.
C'est déjà le cas, c'est vrai qu'il y a des programmes de recherche sur les
interfaces. Ou même les enfants qui ont des troubles de l'attention, puisque le jeu vidéo peut permettre de réguler son attention dans ces cas-là.
Voilà, et pour les soldats également, donc il y a des applications qui sont dans l'air. Donc c'est important, c'est une avancée technologique de pouvoir commander par la pensée donc ces jeux. On termine avec des nouvelles du vieillissement cutané, Caroline.
Oui, on a découvert le contrôleur du vieillissement de la peau. Ce sont des chercheurs de l'INSERM et de l'IRCAN à Nice qui ont cherché à comprendre comment la peau, en vieillissant, a de plus en plus de mal à se réparer, de plus en plus de difficultés à produire de nouvelles cellules. Résultat, elle s'affine, elle se fripe. Eh bien, au cœur de tous ces processus, il y a une molécule, la CD98HC, qui a des interactions multiples.
C'est elle.
Alors, c'est très compliqué, ce serait difficile de vous l'expliquer.
Bon, ils ont trouvé la crème ou pas ?
En tout cas, les chercheurs, ils ont tout compris. Alors, ils n'en sont évidemment pas à la crème. Peut-être que ça leur donnera des pistes pour inverser la tendance du vieillissement de la peau, mais on n'en est même pas là. C'était déjà important de comprendre ce qui se passait.
Donc vous nous mettez en appétit, mais juste pour nous dire qu'il faut attendre 10 ou 15 ans, finalement.
C'est le temps à la science.
Voilà, c'est le temps de la recherche. Sébastien, on termine avec une étude américaine sur les voix des leaders.
Oui, alors on sait depuis des années que les qualités recherchées chez un leader, chez un homme, sont notamment la fréquence vocale. C'est-à-dire qu'on a constaté que les leaders qui ont la voix la plus grave sont souvent considérés implicitement comme ayant plus de crédibilité, de compétences, d'autorité. Il y a même des études sur les élections présidentielles américaines qui ont montré que statistiquement, le vainqueur a une voix plus grave que son adversaire. Là, l'étude de l'Université de Caroline du Nord montrait que ça s'étend aux femmes. Alors, c'est-à-dire qu'à différents postes de responsabilité, statistiquement, les gens semblent préférer chez une femme une voix grave. Ils l'associent aussi implicitement à des qualités de crédibilité, de compétence et d'autorité. Alors, il y a deux explications qui sont évoquées. La première, c'est de dire que traditionnellement, on a souvent associé quand même le leadership aux hommes qui occupaient les postes les plus importants et que donc on verrait chez une femme qui aurait un petit indice de masculinité, une petite association de ce genre-là. Et puis l'autre explication, c'est que la voix de la femme diminue en fréquence fondamentale, devient plus grave avec l'âge et que pour des postes à responsabilité, on préférerait parfois des femmes plus expérimentées.
Est-ce que c'est une étude dont vous parlez dans Cerveau et Psycho ?
Tout à fait.
Sébastien, sur le site internet ou sur les pages papier ?
Sur le site internet pour l'instant.
Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en une là ce mois-ci ?
On a un dossier spécial sur l'épilepsie.
Et Caroline Tour pour Science et Vie.
Eh bien, nous parlons du cerveau, justement. Nous ne sommes pas Cerveau et Psycho, nous sommes Science et Vie. Nous parlons du cerveau artificiel en disant que ça y est, sa construction, c'est parti.
Vous êtes fait pour vous entendre, je le savais. C'est pour ça qu'on vous a réunis ensemble le mercredi. Merci beaucoup à tous les deux. Passez une très bonne semaine.